Chapitre 3. Les algorithmes de la mémoire. Le lendemain matin, l'humour du monde analogique s'évanouit, remplacé par la réalité rugueuse et inflexible d'un mardi. New York m'apparut dans un état de mort imminente. L'air n'était pas seulement froid, il était cassant. Un givre statique et vif qui semblait geler le souffle avant même qu'il ne quitte les lèvres. J'étais seul, emmitouflé dans mon lourd manteau de laine, traitant le cachemire comme une armure contre l'assaut sensoriel incessant de la ville. Je le portais avec la même haïba inébranlable, ce mélange ancestral de prestige et de charisme, que mes ancêtres arborant leur lourde djellaba de laine face au vent cinglant du haut Atlas. Au bord du trottoir, la Lincoln Town Car noire attendait comme une bête silencieuse et obéissante. Je me glissais dans le sanctuaire acoustique de la banquette arrière, tandis que la portière se refermait dans un bruit sourd d'acier américain, signalant la fin du monde extérieur. Immédiatement, le téléphone de la voiture retentit. C'était Carmen. « Écoute, pour hier soir, tu t'en es bien remis, » plaida-t-elle doucement, marchant sur la corde raide entre sentinelle impitoyable et protectrice inquiète. « Mais Hoffman t'attend. Fais-moi une faveur. N'analyse pas la vitesse du vent. Ne calcule pas la friction de son tapis. Entre là-dedans et parle à cet homme comme un humain à dents. Pas comme un ordinateur central dans un costume anthracite. Et bonjour à vous aussi, Carmen. » Soufflai-je en ajustant mes boutons de manchette. Votre tact me rappelle comme toujours celui d'un sergent instructeur qui a mal aux dents. Garde ton charme pour les mots croisés du dimanche, soupira-t-elle. Entre là-dedans, agis comme un mammifère et essaie de ne pas le laisser voir les étincelles bleues derrière tes yeux. Je ne fais que passer un diagnostic de routine, Carmen. Dis-je avant que la ligne ne se coupe avec une finalité de guillotine. L'interface de l'Upper West Side. L'Upper West Side de Manhattan est un quartier conçu pour que l'élite intellectuelle se sente à la fois supérieure et profondément anxieuse. C'est un paysage de maisons en pierre calcaire et de psychologues qui facturent $400 de l'heure pour vous dire que votre enfance n'était pas une tragédie, mais plutôt une série de bugs informatiques malencontreux. La clinique du médecin Hoffman était située dans un immeuble d'avant-guerre, doté d'un ascenseur qui grinçait comme un fantôme victorien protestant contre sa propre existence. Hoffman m'ouvrit sa porte. Il affichait la posture avachie et légèrement épuisé d'un homme passant ses journées à absorber les névroses concentrées du code postal au 124. Ses yeux, derrière ses lunettes à monture métallique, étaient pourtant parfaitement immobiles et d'une acuité terrifiante. Je m'enfonçai dans le lourd fauteuil en cuir face à son bureau. L'endroit exhalait une odeur intense de vieux papier, de relure en cuir et de poussière stérilisée. Au-dessus de nous, l'éclairage fluorescent émettait un bourdonnement constant de 60 Hz. Un fa dièse d'agacement cosmique que je luttais immédiatement à filtrer. « Carmen m'a parlé du Garden hier soir, commença-t-il calmement. Elle dit que vous avez tourné sur vous-même. Littéralement. Comme une toupie ayant perdu son centre. Une simplification grossière, répliquai-je d'un ton monotone et calculé. J'ai rencontré un grave problème de calcul des décibels ambiants. D'un point de vue strictement cybernétique, docteur, je suis simplement un système optimisant ses entrées. Ce que vous percevez comme une crise émotionnelle, je le vois comme un redémarrage forcé nécessaire pour vider un cache corrompu. Une défense élégante, Adam, sourit Hoffman. Mais dites-moi, répétez-vous ce discours, ou votre esprit le sécrète-t-il comme un anticorps cognitif automatique au moment où vous vous sentez menacé? C'est de la logique, docteur, rétorquai-je. Pourquoi chercher un sens émotionnel désordonné quand on peut simplement analyser la fonction et le rendement? Vous croyez observer le monde à travers un télescope propre, mais votre lentille est fissurée par votre propre refus d'être humain, musa Hoffman. L'embuscade de Gödel. Hoffman se pencha en avant. « Connaissez-vous Kurt Gödel ? » demanda-t-il doucement. Je clignai des yeux sincèrement pris au dépourvu. Le premier théorème d'incomplétude de Gödel récitai-je immédiatement. « Vous suggérez qu'au sein de tout système mathématique formel suffisamment puissant, il existe des énoncés vrais mais indémontrables en utilisant les règles de ce système. Je ne vois pas son application clinique à mon épisode au Garden. Je n'étais pas un problème de maths, j'étais un homme dans une pièce bruyante. » L'application est absolue, Adam, insista Hoffman. Gödel a prouvé mathématiquement qu'un système logique ne peut s'expliquer entièrement de l'intérieur. Vous avez besoin d'un observateur extérieur, irrationnel et désordonné, pour voir les failles du système. Vous ne pouvez pas coder votre propre correctif. Vous êtes trop proche du code source. Je sentis une bouffée de chaleur dans ma poitrine, une pointe d'adrénaline. Vous ignorez Turing, lançai-je. Je ne suis pas un théorème incomplet, je suis une architecture auto-optimisée. Je suis le programmeur de ma propre réponse. Hoffman me fixa avec une intensité qui brûla mes dernières défenses. « Mais Adam, si vous êtes le programmeur, pourquoi souffrez-vous d'une latence de 200 millisecondes entre un événement physique et la capacité de ressentir une réaction émotionnelle ? Pourquoi le programmeur fait-il un écran bleu ? Vous n'êtes pas le programmeur, Adam. Vous êtes le code, essayant désespérément de comprendre la main qui l'a écrit. Le diagnostic. Hans Asperger a décrit un groupe d'enfants qui possédait une focalisation terrifiante, presque divine, sur les systèmes, les nombres et la musique, expliqua Hoffman. Il les appelait les petits professeurs. Je pense que vous étiez un petit professeur qui a grandi pour devenir un lion de l'Atlas. Mais le lion est fatigué, Adam. Il est fatigué du bruit. Il est fatigué de cet effet de traînée visuelle, ce ghosting, épuisant que vous subissez quand le monde bouge plus vite que votre capacité à en traiter la couleur. Le mot mourut dans ma gorge. Ghosting. Pour lui, c'était un terme clinique. Pour mon processeur, c'était un lien direct vers un après-midi spécifique à Marrakech. Ce n'est pas juste un trait de caractère, Adam, dit doucement Hoffman. C'est un profil neurodéveloppemental spécifique. C'est la raison pour laquelle vous vous sentez comme un fantôme dans une machine. Il souleva lentement un dossier de chemise cartonné. Ses lèvres bougèrent avec une précision fatale. Syndrome d'Asperger. Syndrome, murmurai-je. Mon processeur interne se grippa violemment. Syndrome impliquait un défaut. Un échec clinique. Ce n'est pas une maladie, c'est l'architecture fondamentale de votre neurobiologie, affirma Hoffman. Et vous essayez de faire tourner humain 20 sur un matériel logique 10 depuis 33 ans. Pas étonnant que vous soyez épuisé. Je ne suis pas un diagnostic, murmurai-je. Non, répondit Hoffman. Vous êtes une exception souveraine. Mais tant que vous n'en reconnaîtrez pas l'architecture, vous serez toujours à la merci de cette latence. Ce tampon de traitement agonisant entre un événement et votre capacité à le ressentir. La défense du Mejdoub. Mais alors que le code-barre médical occidental de Hoffman tentait d'écraser ma carte mère, un pare-feu ancien s'activa. « Vous appelez cela le syndrome d'Asperger, dis-je, ma voix retrouvant le calme clinique du bureau. Vous y voyez un défaut. Mais vous regardez un système d'exploitation marocain ancien et hautement évolué. Je ne suis pas un mécanisme brisé, je suis un Mejdou. Je me souviens des textes marocains enluminés d'or et de lapis-lazuli. Je me souviens de Sidi Kadour El Alami et d'Abderrahman El Mejdoub. Ces hommes voyaient la vérité mathématique de l'univers si clairement que le monde normal leur semblait n'être que de la friture insignifiante. Aujourd'hui, on les pathologiserait. Mais dans mon héritage, ils étaient considérés comme sans faille, purs et divins. Ils n'étaient pas troublés, ils étaient attirés vers Dieu. « C'est une belle mythologie, Adam, » dit Hoffman avec une condescendance feutrée. « Mais nous ne sommes pas au Maroc au XVIIe siècle. Vous n'êtes pas un mystique. Vous êtes juste un accident biologique de très haut niveau. Le fantôme orange, mémoire d'un schisme cinétique. » Ce fut le dernier son clair que j'entendis. Le câble audio de mon cerveau se rompit violemment. Je regardais la bouche du médecin Hoffman continuer de bouger, mais le flux audio tomba à zéro. À la place, mon cortex visuel prit le contrôle. Il modélisa la forme physique du bruit de Hoffman. Une onde sinusoïdale grise flottant entre nous, parfaitement mappée sur l'équation. I égale A5. Et alors, dans ce silence profond, le clignotement tortureux des néons disparut. Hoffman pensait diagnostiquer un syndrome. Je savais que j'observais une caractéristique révélatrice de l'univers. Pour comprendre l'écart, Hoffman n'avait pas besoin d'un manuel médical mais de l'été 1974. Notre maison, le Riad Al-Andalus, avait connu une révolution technologique. Mon père avait acquis un téléviseur couleur Thomson de nouvelle génération pour la Coupe du Monde en Allemagne de l'Ouest. Alors que mes camarades étaient ensorcelés par le football total de l'équipe néerlandaise, mon esprit était pris en otage par le système SECAM. Une merveille technique française qui reposait sur un tampon mémoire pour transmettre les couleurs. Lorsque la légende Johan Cruyff lançait ses pointes de vitesse, il commettait un acte de sabotage technique. Son corps physique bougeait à une vitesse que le tube cathodique vieillissant ne pouvait suivre. Pendant une fraction de seconde, son moi matériel bondissait dans le vide, tandis que sa couleur restait à la traîne. Je voyais Cruyff courir, et son maillot orange le suivait désespérément pour le rattraper. C'était du surréalisme pur. Un corps libéré de sa couleur dépassant le temps, et une couleur sans corps essayant de fusionner à nouveau avec la réalité. Ce fut ma première leçon existentielle. La réalité n'est pas solide, elle n'est que donnée, soumise au délai et au traitement. Je compris alors que mon cerveau était simplement un téléviseur Thomson haute performance, luttant perpétuellement pour synchroniser le mouvement brut du monde avec sa propre couleur interne. Je vivais dans l'écart. J'étais un processeur SECAM dans un monde pâle. Je revins brusquement au présent, dans l'Upper West Side. Hoffman attendait que l'accident biologique se rende au diagnostic. Il ne comprenait pas qu'en lui donnant un nom, il n'avait pas capturé le lion, il n'avait fait que confirmer l'architecture du fantôme. Je le regardais, et pendant une seconde fugitive, je ne vis plus un médecin. Je vis une diffusion en noir et blanc essayant d'expliquer la couleur à un processeur SECAM. La latence entre ces mots et ma réalité s'étira de plus en plus fine, jusqu'à ce que le signal ne puisse plus porter le poids des données. Puis le monde devint silencieux, et je sortis dans l'air glacé de Manhattan. Une exception souveraine avec un nom dont je ne voulais pas.